Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique.
Nous vivons des jours réellement extraordinaires. Qui aurait pensé, lorsque nous avons célébré Noël et Nouvel An, il n'y a pas longtemps en arrière, que 3 mois plus tard, nous vivrions une catastrophe à l'échelle planétaire à cause d'un minuscule virus invisible. Écoutez, des pays entiers se sont totalement renfermés sur eux-mêmes en quelques jours afin de tenter d'arrêter ce virus mortel de se propager. Les dernières statistiques que j'ai trouvées ce matin sont 308 000 contaminés et 13 068 décédés dans le monde à cause de ce virus. Mais je pense qu'il fait le plus peur, c'est que la propagation de ce virus est exponentielle. Et le fait qu'il n'y a pas de médicaments, ni apparemment encore de vaccins contre ce nouveau virus mortel. Et donc des millions de personnes sont confinées chez eux, et dans certains cas sous peine d'amende s'ils sortent, ce qui est finalement notre cas. Nous avons besoin d'un bout de papier signé pour pouvoir même sortir de la maison aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Qui aurait pu imaginer ça il y a quelques semaines en arrière? En plus, des millions de personnes ont perdu leurs emplois d'un jour à l'autre. Des millions d'autres vont perdre leur emploi dans les jours, les semaines, voire les mois à venir. Les bourses financières du monde se sont littéralement effondrées et continuent aujourd'hui leur chute vertigineuse. Des millions de personnes sont en train d'être ruinées financièrement. Et ceux qui sont déjà les plus démunis se voient aujourd'hui être encore plus démunis et se demandent comment ils vont faire tout simplement pour survivre. Nos États qui le peuvent, tentent d'injecter des centaines de milliards, voire des trillions dans leurs économies pour tenter de les sauver. Et nous entendons en boucle à la télé, que dans les hôpitaux, ils ne sont pas assez bien équipés, il y a un manque de masques, il y a un manque d'équipements de protection, des machines à respirer. Et franchement, et là je m'arrête pour dire merci et je suis en admiration pour les médecins, les infirmiers, les infirmières qui, eux, vont au travail, au risque de leur vie, pour nous aider, pour aider ceux qui sont infectés. Et ils le font au péril de leur propre vie. C'est incroyable. Et c'est vrai qu'on se pose tous la question, il y a certains pays comme l'Inde ou des pays d'Afrique qui n'ont pas les infrastructures médicales que nous avons à l'Occident. Ils attendent leur vague du virus et franchement, on se demande comment les choses vont se passer dans leur pays. Alors voilà. Les gens ont peur, il faut dire ce qui est. Nous avons tous peur. Personne ne souhaite être contaminé et j'ose le dire, personne ne souhaite mourir à cause de ce virus. Car, et je pense que c'est ça la chose à dire, ce n'est pas du tout de cette manière que la plupart des gens ont pensé qu'ils mourraient un jour. Et pourtant aujourd'hui, tout le monde se pose la question sur leur avenir. Et je pense surtout les personnes plus âgées, les personnes à risque. Alors on disait que les jeunes n'étaient pas à risque, mais aujourd'hui on dit qu'en fait ils peuvent aussi attraper ce virus, ils sont vulnérables comme tout le monde. Et finalement on réalise que personne n'est épargné. Et ce virus continue sa progression. Donc voilà quelques mots sur la situation actuelle du coronavirus, aussi appelé le Covid-19, dans le monde d'aujourd'hui. Alors, mon but ce matin, c'est d'essayer de voir avec vous ce que la Bible dit au sujet du coronavirus. Et j'aimerais donc aborder le sujet en posant tout simplement 9 questions et tenter d'y répondre pour nous donner d'un côté un réel réconfort face à ce virus mortel, face à cette tragédie mondiale que nous vivons et de pouvoir vraiment être en paix malgré le chaos que nous voyons autour de nous. Alors c'est vrai qu'on est d'un côté très moderne dans la technologie, mais de l'autre un petit peu moins. Mais alors je vais quand même vous poser ces 9 questions, mais aussi vous allez voir être affichés pour pouvoir vraiment les capter. Alors voici la première question. Avons-nous déjà vu ce genre de virus dans le monde dans le passé? Oui. Oui, le monde a vu plusieurs pandémies dévastatrices dans son histoire. Je vous en donne quelques-unes. Par exemple, la peste de Justinien ou la peste justinienne a frappé Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, en 541. Elle y fut apportée par bateau depuis l'Égypte, un pays récemment conquis, et qui envoyait du grain à Constantinople. Le problème, c'est que des rats infestés de puces faisaient partie du cargo. Cette plaie a décimé Constantinople et toute l'Europe, tuant, tenez-vous bien, entre 30 et 50 millions de personnes, qui à l'époque représentaient peut-être la moitié de la population mondiale. Alors le problème, c'est que personne ne savait comment lutter contre une telle pandémie, et ceux qui ont survécu avaient apparemment des immunités naturelles. Ensuite, il y a eu, bon, il y en a d'autres, mais ensuite, il y a eu, c'est les plus célèbres peut-être, la peste noire qui a frappé l'Europe en 1347 et qui a tué plus de 200 millions de personnes en juste 4 ans. Alors, comment ont-ils fait pour arrêter ce ravage? Eh bien, ils ont conclu que la proximité avait quelque chose à voir avec la contagion. Et c'est à Venise, et ça, c'est, j'avais jamais entendu ça, que l'idée de la quarantaine a commencé. Ils ont interdit pendant 30 jours le débarquement de marins de leur bateau. C'était une loi qu'ils ont appelée la loi des Trentino. Puis ils ont augmenté la quarantaine à 40 jours, la loi de la Carentino, qui est donc à l'origine du mot quarantaine qu'on utilise aujourd'hui en français. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a marché. La quarantaine a marché. Ensuite, il y a eu la grande peste de Londres de 1348. Alors Londres a connu de 1348 à 1665 un total de 40 épidémies en 300 ans, avec chaque fois environ 20% de la ville tuée. C'est en 1500 que Londres a pris la décision d'isoler les malades. On identifiait les maisons frappées par une botte de paille pendue à un mât devant la maison. Si tu devais sortir de la maison, tu devais avoir un long bâton blanc pour que les gens puissent voir et ensuite dégager. Et puisqu'on pensait que les chats et les chiens portaient le virus, on a tué des centaines de milliers d'animaux. Et la dernière peste à Londres a eu lieu en 1665, tuant 100 000 londoniens en 7 mois. Les gens furent confinés à leur maison pour empêcher la propagation des morts. Ils ont aussi enterré les morts. Et ça, de nouveau, cela a marché. Ensuite, il y a eu la variole du 15e siècle. Ce virus fut apporté en Amérique ou dans les Amériques par les Européens au 15e siècle et a tué des dizaines de millions de personnes au Mexique aujourd'hui et aux États-Unis. On estime que 90%, 90% de la population indigène est morte à cause de la variole. Et ce n'était qu'en 1980 que la variole a été totalement éradiquée de notre planète. Alors bien sûr, et ça on en parle beaucoup, une des plus célèbres endémies est la grippe espagnole de 1918. Et cette pandémie grippale, dite la grippe espagnole, était une pandémie particulièrement virulente et contagieuse qui s'est répandue à partir de 1918. Bien qu'elle a d'abord apparu aux États-Unis puis en France, elle a pris le nom de grippe espagnole car l'Espagne, non impliquée dans la Première Guerre mondiale, fut le seul pays à publier librement les informations relatives à cette épidémie. Cette pandémie a fait entre 20 et 50 millions de morts, selon l'Institut Pasteur, mais peut-être, et certains pensent, qu'elle a même, en fait, il y a eu 100 millions de morts, presque 5% de la population mondiale. En seulement 18 mois, au moins un tiers de la population mondiale était, en fait, infectée. Alors, nous avons un avantage aujourd'hui en 2020. Nous savons mieux gérer ce genre d'épidémie, car nous avons des voies de communication instantanées avec le web qui nous permet de mieux nous préparer. Et nous savons que la première phase, ça c'est intéressant, contre un tel virus est la quarantaine ou l'isolement. Voilà pourquoi nos gouvernements prennent des décisions draconiennes et positives, même si elles nous paraissent contraignantes, et cela pour nous isoler afin de ne pas permettre à ce virus de se répandre encore plus. Deuxième question. La Bible parle-t-elle d'épidémies de ce genre? La Bible parle-t-elle d'épidémies de ce genre? Parle-t-elle d'endémies, de contagions, d'infections, des maladies contagieuses, des pestilences et des virus comme le coronavirus? Eh bien, il y a beaucoup d'exemples, en fait, et je vous en montrer quelques-unes, d'accord, quelques-uns. Par exemple, dans Exode chapitre 9, c'est le récit des 10 plaies d'Égypte. Et au chapitre 9, versets 8 à 9, c'est les 6e plaies, il est dit ceci: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendre de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays. Elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Et donc là, sur tous les hommes, sur les animaux, il y a des ulcères qui se sont, qui ont éclaté sur la peau de ces gens. Donc c'est une sorte d'épidémie. Et bien sûr, dans le chapitre 11 d'Exode, nous avons au verset 4 et 6, il est dit ceci, Moïse dit ainsi par l'aide de l'Éternel vers le milieu de la nuit, donc ça c'était la dernière plaie, c'était où Dieu tue tous les premiers-nés des Égyptiens. Il est dit à l'Éternel, excusez-moi, le verset 4, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur le trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus semblable. Alors, on ne sait pas exactement de quoi sont morts ces premiers-nés, mais imaginez un instant, tous les premiers-nés de toutes les familles d'Égypte ont été tués par une sorte de vague, par une sorte de chose invisible qui a vraiment pointé sur ces premiers-nés. Ensuite, dans Lévitique, c'est intéressant, dans Lévitique 13, 2, nous lisons ceci. Le mot « plaie » est utilisé pour décrire ce qui est vraisemblablement la lèpre. Et regardez, je vais lire 13.2. « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemble à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron et ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. » Alors ce qui se passait, et ça c'est très intéressant, si quelqu'un avait une maladie qui ressemblait à la lèpre, donc qui était visible, on devait l'amener vers le sacrificateur et lui agissait comme médecin. Et lui, il était censé à examiner et voir un petit peu ce qui était le problème. Mais alors, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est quel soin devait-il apporter à une telle personne? Et là, on le voit au verset 45, le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés, aura la tête nue, et il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Donc c'est un peu comme le bateau blanc pendant la peste londonienne. Il fallait que les gens dégagent, donc ils disaient impur, impur. Et verset 46, aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Alors, très intéressant que déjà dans Lévitique et dans la Bible, eh bien l'idée de l'isolement d'un malade était une manière de protéger les autres. Donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que en 2020, 3000 ans plus tard, nous utilisons les mêmes méthodes, en fait, d'isolement pour ne pas propager ces maladies. Alors, il y a d'autres plaies encore plus drastiques peut-être pas, mais qui sont assez incroyables. Dans le Nombre, chapitre 14, versets 36 à 38, il y a les espions qui sont montés en terre promise, ils sont revenus et il y avait un mauvais rapport. Et alors, Dieu a jugé, regardez comme il a jugé, chapitre 14, versets 36 et 37, les hommes de Moïse qui avaient envoyé pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Et donc là, de nouveau, une plaie, alors ciblée ici, mais une plaie qui a tué ces hommes. Dans Nombre 16, juste un ou deux chapitres plus tard, eh bien, il y a un homme qui s'appelle Corée qui s'est rebellé contre Moïse et contre beaucoup de gens. Il a entraîné plein de gens avec lui. Et il est dit dans Nombre 16, à partir du verset 46, la chose suivante. Il dit, Moïse dit à Aaron, prends le braisier, mets-y le feu dessus, l'autel, pose du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Donc, Dieu envoie une plaie. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Donc, c'était une plaie lente. Il offrit le parfum, fit l'expiation pour le peuple, il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. Et le prochain verset nous dit les conséquences. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à à cause de Corée. Donc, de nouveau, une plaie lente qui tue et qui est arrêtée à un moment donné. Dans Nombre 25, maintenant, encore une plaie, mais là, c'est pour cause de débauche et idolâtrie, débauche sexuelle et idolâtrie. Dans Nombre 25.1, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Et Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et regardez maintenant le verset 9. Et il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Là, 24 000 morts à cause de cette plaie. Et à un moment dans 1 Samuel 5, l'arche d'Israël, l'arche de l'Alliance est capturée par les Philistins. Et là, Dieu aussi envoie une plaie dans 1 Samuel 5. Dans Deutéronome 28 aussi, lorsque la loi a été donnée, eh bien, les plaies viennent pour les gens qui la désobéissent. Bref, tout ce qu'on voit, ce que je voulais faire ressortir ici, c'est que les plaies de tout genre existaient bien dans l'Ancien Testament. Excusez-moi, il y a mon truc qui tombe à l'attaque. Excusez-moi. Donc, toutes excusez-moi, on est en live, mais il y a mon stand qui est en train de tomber, d'accord? Donc, ça, c'est le problème du live. Et j'ai pas la force pour pouvoir faire qu'il tienne. Mais là, je crois qu'il va tenir à peu près. C'est que ma Bible est lourde, d'accord? Alors, bref, tout ça pour dire que, et ça, ce que j'aimerais faire ressortir ici, c'est que les plaies, ce genre de ravage presque invisible, existait bel et bien dans l'Ancien Testament. En fait, j'aimerais élargir un petit peu notre réflexion au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la vie de Jésus. D'accord? C'est la vie de Jésus et au-delà. Eh bien, je me suis posé la question, mais quel type de maladie est-ce qu'il existait? Non seulement dans la Bible, mais aussi dans le Nouveau Testament. Alors, j'ai la liste. D'accord? Voici rapidement toutes les maladies qui existaient dans la Bible. L'atrophie, l'uxisis, la cécité, donc être aveugle, les courbatures du corps, les ulcères, la surdité, l'hydropysie, donc quand le corps penche d'un côté, le mutisme, la dysenterie, l'épilepsie, la fièvre, l'hémorragie, les infirmités diverses, la folie, un peu comme le roi Nebuchadnezzar, la lèpre, l'obésité, Aiglon dans Juges 3, la paralysie, la pestilence, la peste, la possession démoniaque, et j'ai envie d'ajouter la vieillesse et aussi la mort. Et donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les maladies ou la maladie, voici ce que j'aimerais faire ressortir, la maladie fait partie de la condition humaine, du mal humain. Et cela depuis tout le début de la Bible et de l'histoire de l'humanité. Donc, ce qu'on apprend, c'est que la maladie, et vous savez, les gens qui meurent, à moins qu'ils meurent d'un accident, d'habitude meurent à cause de maladies. Eh bien, la maladie et la mort font donc partie de l'histoire de l'humanité. Ça, ça mène à la troisième question. La troisième question, pourquoi la maladie existe-t-elle? Pourquoi la maladie existe-t-elle? Oui, alors bien, on vient de constater que la maladie fait partie de l'histoire de l'humanité. Oui, mais alors la question est pourquoi? Pourquoi? Et j'ai envie quelque part d'élargir un petit peu la question et dire, mais pourquoi les choses mauvaises arrivent-elles aux hommes comme la maladie, mais aussi comme les accidents, les tragédies? J'élargis encore plus, pourquoi est-ce que les choses comme les tsunamis arrivent? Des ouragans, des tremblements de terre, des tornades meurtrières, des feux de forêt. Et tellement de choses peuvent arriver dans le monde qui mènent à la mort et qui mènent à la maladie. Même les avions, pourquoi est-ce que les avions crachent-ils? Pourquoi les voitures ont des accidents? Pourquoi est-ce que les grues tombent soudainement et tuent les gens? Pourquoi est-ce que les immeubles s'écroulent? Toutes ces questions. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, la réponse, elle est claire dans la Bible. La Bible affirme que toutes ces choses mauvaises qui arrivent existent à cause d'une chose. La voici. parce que la terre a été maudite par Dieu. Et ça, j'aimerais vous le montrer dans la Bible. Allez avec moi à Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse, premier livre de la Bible, Genèse chapitre 3. Dieu a créé la terre, il a placé Adam et Ève, donc le premier homme, la première femme dans le jardin d'Éden. Satan les a tentés, et l'homme et la femme ont péché contre Dieu. Ils ont obéi à Satan et désobéi à Dieu. Et la conséquence, c'est que Dieu prononce 3 malédictions sur l'homme. Et dans Genèse 3 et le verset 17, on lit ceci. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Écoutez bien, il dit, « Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est de la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à que tu retournes dans la terre dont tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Et donc, ce qu'on apprend, et ça c'est très intéressant, mes amis, c'est que le sol, à cause du péché de l'homme, serait maudit. Le travail, parce que Adam et Ève travaillaient déjà, mais dorénavant, le travail deviendrait pénible, c'est pour ça que vous n'aimez pas aller au travail souvent, d'accord? La nourriture que nous allons tirer du sol dorénavant devient un travail dur. Il y aura des épines et des ronces. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les épines et les ronces poussent plus vite que les bonnes herbes et les fleurs? À cause de ça. Et on apprend en plus que la mort suivrait. On retournerait à la poussière dont on a été tiré. Donc ce qui est intéressant, c'est que le sol, la terre elle-même, fut maudite par Dieu à cause du péché de l'homme. Et voilà le sens de Romains 8 dans le Nouveau Testament, 18 à 24, où là il parle des souffrances dont il fait l'expérience. Paul, l'apôtre, explique qu'en fait toute création souffre. Écoutez, c'est incroyable, d'accord? Dans Romains 8, il est dit ceci. La création, tout ce qui est autour de nous, a été soumise à la vanité. Elle attend d'être affranchie de la servitude de la corruption, et nous savons que la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Waouh ! Ce que Paul est en train de dire, c'est que la création a été corrompue. Il décrit la création comme étant pourrie. La terre et tout ce qu'elle contient est en train gentiment et lentement de pourrir ce que Dieu avait créé. Et ce qu'il avait appelé bon au tout début est maintenant devenu pourriture et corruption. Et quelque part, c'est ce qu'on apprend, la terre attend d'être renouvelée. Et ça, mes amis, c'est le truc génial de la Bible, c'est que si vous allez à la fin de la Bible, Apocalypse 20, 21, 22, vous verrez qu'il y a une nouvelle terre et une nouvelle création que Dieu va créer, et nous allons retrouver cette terre comme elle était dans le jardin d'Éden. Mais entre-temps, il y a une terre qui est en train gentiment de mourir et de pourrir. Écoutez Jérémie 12, 4. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Ce verset est étonnant. Jérémie 12, 4 dit que l'herbe des champs dessèche. Et que les bêtes et les oiseaux meurent. Vous avez déjà vu un moineau mort sur votre terrasse, si vous avez une terrasse? La Bible dit que cette herbe et ces oiseaux morts le sont à cause de la méchanceté de l'homme, à cause du péché, à cause du fait que l'homme s'est rebellé contre Dieu. Dieu a maudit la terre à cause de son péché. Eh oui, voilà pourquoi. Il y a des phénomènes destructeurs dans le monde, comme des tremblements de terre, des tsunamis, des inondations, des incendies, des éboulements de boue, des avalanches, des tornades destructrices, et j'en passe. Oui, ces choses arrivent parce que la terre est maudite. C'est intéressant que les assureurs américains appellent ces phénomènes destructeurs et imprévisibles des actes de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Dans votre contrat d'assurance, des actes de Dieu. Waouh, c'est intéressant. Et bien aimé, c'est la raison pour laquelle, écoutez bien, nous tombons malades. Les microbes et les virus dévastateurs font partie de cette malédiction. Voilà pourquoi on attrape des rhumes. Voilà pourquoi on a des maux de tête. Voilà pourquoi on chope la grippe. Voilà pourquoi on est atteint parfois du cancer ou du sida ou de l'Ebola. Et aujourd'hui, on peut ajouter le coronavirus. Voilà. C'est parce que nous vivons dans un monde maudit et déchu. Mais ça explique encore aussi pourquoi il y a des accidents terribles, des carambolages mortels sur l'autoroute, des crashs d'avions dans le Pacifique, des trains qui déraillent, des centrales nucléaires qui explosent. Voyez-vous, nous, on essaie de fabriquer des choses de qualité, mais, et voici la grande leçon, tout casse. Tôt ou tard, tout casse, même nous. Tout casse. Alors ceci mène à une quatrième question. Alors il faut la poser, parce que je pense que c'est la crainte de beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui. Pourquoi la mort existe-t-elle? Pourquoi la mort existe-t-elle? Ben oui, alors on a déjà finalement répondu à la question, mais je vais la préciser. Parce que je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, je pense à ce qui nous fait le plus peur. C'est ce qui nous fait le plus peur. C'est le mourir. Les statistiques de la mort dans le monde sont quand même assez phénoménales. Environ 57 millions de personnes meurent chaque année. 155 399 ou 99 personnes meurent chaque jour. 6475 personnes meurent chaque heure. 108 personnes meurent chaque minute. Qui veut dire qu'environ 2 personnes meurent chaque seconde dans le monde. Donc chaque fois que je fais ça, 2 personnes meurent dans le monde. Écoutez, la mort est tout autour de nous. Les gens meurent. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous savons que nous devons tous mourir un jour. Mais voici ce qui fait peur. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Je me dis, voilà, je sais que je dois mourir un jour. Ça, on le sait. Mais c'est toujours lointain, la mort. Mais quand même, pas par un virus en 2020. Non, nous espérons tous mourir à un vieil âge lointain, ayant vécu une vie sympathique, bien. Et nous espérons, honnêtement, un jour mourir à ce bel âge, dans notre sommeil, sans aucune douleur, paisiblement, sans même nous apercevoir que nous allons mourir. Alors ça, c'est le rêve. C'est le rêve de tout le monde. Mais je pense que dans la plupart, je sais pas, mais dans beaucoup de cas, c'est pas comme ça. C'est pas la réalité. Alors, la question, c'est comment comprendre la mort, et surtout si nous affirmons que Dieu est amour, parce que 1 Jean 4,8 le dit comme ceci, je cite, « Dieu est amour ». Alors, moi je dis, Dieu est amour? Vraiment? Alors pourquoi est-ce qu'il permet la mort? Pourquoi les hommes meurent-ils? Bien de nouveau, la Bible nous explique de manière claire et limpide d'où vient la mort. La mort de l'homme est liée de nouveau à la rébellion de l'homme contre Dieu, ce qu'on appelle le péché. Selon Genèse 2,17, Dieu a dit à Adam lorsqu'il se trouvait dans le jardin d'Éden, je cite, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Alors là, c'est clair. Tu pêches, tu meurs. Donc la mort est clairement une conséquence du péché, se retrouve aussi dans Ézéchiel 18,4, qui dit, écoutez bien, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Ézéchiel 18,4. « L'âme qui pêche est celle qui mourra. » Et c'est précisément ce qui s'est passé avec Adam. Adam a désobéi à Dieu, se rebellant contre lui, il est mort. Genèse 5,5 nous dit qu'Adam mourut. La mort physique a frappé Adam, comme Dieu l'avait prédit, après qu'il a d'abord été expulsé du jardin, signe de cette relation coupée avec lui dans Genèse 3,22 à 24. Alors écoutez, Romains 5,12 nous apprend une chose encore plus terrible. c'est que toutes les générations qui succèdent à Adam meurent également parce que, comme Adam, elles aussi désobéissent à Dieu et rient de la même condamnation que lui. C'est pourquoi, Romains 5:12, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Combien d'hommes ont péché? Tous ont péché. Ecclésiaste 7:20 le dit comme ceci, non. Au cas où vous dites, ouais, John, je suis l'exception, par rapport au péché. Ecclésiaste 7:20 dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Il n'y a pas un homme sur terre qui ne pêche pas. Le seul qui n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tous les autres ont péché. Romains 3:23 le dit encore plus clairement. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont coupables de rébellion. Et donc tous sont condamnés à mourir. Point final qui ne peut pas y échapper. Alors voici le vrai drame de l'humanité. Depuis Adam, chaque pécheur meurt. Depuis Adam, chaque pécheur est coupé de la présence de Dieu à cause de son péché. Il est ainsi séparé de Dieu pour le temps, mais aussi pour l'éternité, à moins qu'il ne se réconcilie avec Dieu en se tournant vers Jésus-Christ. Parce que lui est mort et ressuscité. Voyez-vous, Jésus a vaincu la mort, qui veut dire qu'il a vaincu le péché, puisque c'est le péché qui provoque la mort. Et s'il a vaincu le péché, ça veut dire qu'il peut nous pardonner de ce péché. Et donc nous accorder la vie éternelle. Alors la mort physique, ça, c'est cuit pour tout le monde, mais on peut avoir une vie éternelle, selon Jean 3:16. Et ça, il nous le donne gratuitement pour ceux qui confient leur vie à Jésus-Christ. Alors je vais dire quelque chose sans vouloir être irrespectueux, mais je pense que c'est vraiment vrai. Écoutez ce que je vais dire. Parce que c'est vraiment étrange de dire. Et je ne veux pas minimiser du tout le drame humain que nous sommes en train de voir se passer devant nos yeux avec le coronavirus, dans tous les pays du monde. Mais toutes les personnes déjà mortes du coronavirus étaient tous déjà vouées à la mort, comme vous. Et comme moi d'ailleurs. Bien aimé, je suis déjà voué à la mort. Tôt ou tard, chacun de nous allons mourir. Comme chacune de ces personnes qui sont décédées du virus. Voyez-vous, la seule chose ou les seules choses que ces personnes qui sont décédées ne savaient pas, et ça, elles ne pouvaient pas l'imaginer il y a quelques mois en arrière, qu'elles seraient mortes du coronavirus aujourd'hui. Non. Tout ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ni quand, ni comment nous allons mourir. On pourrait mourir d'un tremblement de terre, d'un tsunami, d'un accident de voiture, du cancer, d'un attentat terroriste, de la vieillesse, de la guerre, d'un suicide, qu'on soit jeune ou vieux. Donc, nous comprenons mieux maintenant. Pourquoi la mort arrive? Pourquoi la mort arrive? C'est une conséquence de notre péché. Ça m'amène à la cinquième question. Est-ce que le coronavirus est un jugement de Dieu? Ah, beaucoup de chrétiens se posent la question, et peut-être ceux qui sont moins croyants se sont posés cette question. Dans Exode 8, c'est quand Moïse confronte Pharaon pour que les enfants d'Israël puissent sortir d'Égypte. Lorsque les magiciens égyptiens païens ont vu les 10 plaies d'Égypte amenées par Moïse, ils ont dit ceci dans Exode 8, 19. C'est incroyable, écoutez bien. Ceci est le doigt de Dieu. Ceci est le doigt de Dieu. Donc, ces magiciens égyptiens païens, quand ils ont vu ces 10 plaies, ont dit « Waouh, ça, c'est le doigt de Dieu. » Il y a un prédicateur qui s'appelle J.C. Ryle, un pasteur au XVIIIe siècle en Angleterre, qui a écrit pendant la grande peste bovine de 1865 à 1867, voici ce qu'il dit. « Qui a envoyé le déluge sur le monde au temps de Noé? C'était Dieu. Genèse 6, 17. Qui a envoyé la famine au temps de Joseph? C'était Dieu. Genèse 41, 25. Qui a envoyé la paix sur le bétail d'Égypte sous le règne de Pharaon? C'était Dieu. Exode 9, 3. Qui a envoyé la maladie aux Philistins quand l'arche était parmi eux? C'était Dieu. 1 Samuel 5. Qui a envoyé la peste au temps de David? C'était Dieu. 2 Samuel 24, 15. Qui a envoyé la famine au temps d'Élisée? C'était Dieu. 2 Rois 8, 1. Qui a envoyé le vent orageux et la tempête au temps de Jonas? C'était Dieu. Jonas 1, 4. Et ensuite, J.C. Ryle dit ceci. Je crois que les guerres, les famines, les pestes, les fléaux du bétail sont tous ses instruments pour exercer sa gouvernance de ce monde. Et donc, quand je vois un fléau comme la peste bovine, dit-il à son époque, je n'ai aucun doute sur la main qu'il envoie. C'est le doigt de Dieu. Mais alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi ces choses terribles seraient-elles envoyées par le doigt de Dieu? Surtout si Dieu nous aime. Et là, c'est moi qui pose cette question, c'est plus J.C. Ryle. Eh bien, la réponse, de nouveau, elle est simple. À cause de sa justice. À cause de sa justice. Je vais lire un verset tout à fait étonnant dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Écoutez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges depuis sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Voyez-vous, la Bible explique que Dieu est juste. Et du fait qu'il est juste, il doit juger le mal. Je vous donne un exemple. Imaginez que je cambriole une banque. Et que le juge, puisqu'il me trouve sympa, ne me punit pas pour mon crime. Bah, écoutez, il serait un mauvais juge. Car il ne serait pas juste. Un juge est obligé d'être juste. Or, Dieu est parfaitement saint. Il est donc un juge parfaitement juste. S'il ne punissait pas le mal, alors il serait un Dieu injuste et corrompu. Regardez autour de nous. Notez le mal qui existe autour de nous. Meurtre. Viol, cambriolage, guerre, terrorisme, débauche sexuelle, infidélité conjugale, avortement, adultère, homosexualité, ivrognerie, idolâtrie, mensonge, vol. Ça, c'est juste pour mentionner que quelques-uns. Regardez combien l'homme est rebelle à Dieu! Ne pensez-vous pas que Dieu a le droit, non, le devoir de punir? Romains 1,18, la colère du Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, à la question que je viens de poser, est-ce que le coronavirus est un jugement de Dieu? Eh bien, la réponse, franchement, est oui, dans le sens, oui. Dans le sens que le salaire du péché, c'est la mort, et que toute mort est un jugement de Dieu contre les hommes pour leur péché. Donc, le drame, et oui, c'est un drame, du coronavirus, des tsunamis, des tremblements de terre, sont des rappels de la part de Dieu que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, Dieu veut que les gens réfléchissent à ça. Comme les gens autour de nous le font aujourd'hui. C'est vrai, ce virus fait que tout le monde a peur et tout le monde se pose la question maintenant. C'est une vraie question par rapport à la mort. Ces questions existentielles que dans les temps normaux, ils ne se poseraient peut-être pas ces questions ou moins. 6. Là, c'est une question intéressante. Est-ce que le coronavirus est l'accomplissement du quatrième sceau d'Apocalypse 6-7? Est-ce que le coronavirus est l'accomplissement du quatrième sceau d'Apocalypse 6-7? Alors, si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, et surtout si vous êtes évangélique, certains suggèrent que le coronavirus pourrait être l'accomplissement des fléaux de Dieu mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Alors, le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. En fait, si vous êtes intéressé, sur le site de l'EIG, vous pouvez aller sur prédication et Apocalypse, et j'ai fait une série de 32 messages sur le livre de l'Apocalypse, si ça vous intéresse. Mais donc, pour résumer, à la fin des temps, la Bible décrit une période de 7 ans qui s'appelle la Grande Tribulation, où Dieu va juger le monde et la personne de l'Antichrist. Et là, vous pouvez voir tout ça sur le chapitre 13 d'Apocalypse sur l'Antichrist. Et là, il va juger le monde par une série de 21 fléaux terribles et dévastateurs. Cette période va être tellement horrible que Jésus l'a décrite dans Matthieu 24, 21, comme ceci. Il dit, je cite, « La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent » et qu'il n'y en aura jamais. Jésus dit que la période de la grande tribulation est tellement horrible que le monde n'a jamais encore rien connu comme cela et ne connaîtra rien non plus après cela. Eh bien, dans Apocalypse 6-7, il est dit, et je cite, « qu'un cheval nommé la mort avait le pouvoir de tuer un quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par des bêtes sauvages. » Donc les interprètes de la Bible ont souvent vu ici un ravage de pestilence dans le monde où les bêtes sauvages, parce qu'ils parlent de bêtes sauvages dans Apocalypse 7, représenteraient des animaux par qui le virus dévastateur se propagerait, donc des rats, des puces, voire des chauves-souris, et d'autres encore. Alors notons, c'est ça qui quand même fait le malade, ce texte nous dit qu'un quart du monde, littéralement un quart du monde périra. Alors, si cela devait arriver aujourd'hui, la population du monde est estimée à juste en dessous de 8 milliards de personnes. Donc, cette plaie à elle tout seule, il y en a 21 en tout, hein, cette plaie à elle toute seule tuerait 2 milliards de personnes sur la Terre si elle arrivait aujourd'hui. Alors, on peut parfaitement comprendre le désir par certains de conclure que le coronavirus est cette plaie. Alors, personnellement, moi, je serais un petit peu plus prudent par rapport à cette conclusion. Déjà, nous sommes très loin des 2 milliards de décès, mais nous ne savons pas du tout ce que la suite nous attend. Mais aussi, je pense qu'il y a d'autres éléments décrits dans la Bible que vous pouvez regarder si vous voulez écouter mes messages sur Apocalypse. D'autres éléments qui me font douter personnellement que nous sommes dans la période de la grande tribulation aujourd'hui. Voilà, donc je ne vais pas dire plus que ça, mais moi j'ai un doute par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, et voici la leçon que j'en tire. Lorsque j'ai prêché le livre de l'Apocalypse il y a 2 ans et 1 an en arrière, et quand j'ai prêché sur les plaies, quand je suis arrivé à cette plaie-là, je me suis dit à moi, je crois pas que j'ai dit dans mon message, mais je le pensais à moi, je me suis dit, comment est-ce possible que 2 milliards de personnes périssent sur la Terre en si peu de temps, et surtout dans notre temps moderne de médecine? Ça me paraissait invraisemblable. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, mon discours a changé. Cette plaie biblique qui tue un quart du monde me paraît tout à fait possible aujourd'hui, même dans le temps moderne. Et comme j'ai déjà dit, ce qui est dingue, c'est que dans Apocalypse, ça c'est une plaie sur 21. Alors, 7. J'espère que vous êtes encore avec moi. Septième question. Si le salaire du péché, c'est la mort, pourquoi sommes-nous encore vivants? Si le salaire du péché, c'est la mort, pourquoi sommes-nous encore vivants? Ça, c'est une question très, très pertinente. Le psaume 51,7 dit « Je suis né dans l'iniquité ». Ça veut dire que je suis né pécheur. J'ai hérité mon péché de mes parents. Donc, quelque part, si le salaire du péché, c'est la mort, J'aurais dû mourir à ma conception, voire au moment de ma naissance, puisque j'étais déjà voué à la mort. Puisque Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais aujourd'hui, j'ai 63 ans et je suis encore en vie. La question est pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai vécu déjà 63 ans quand je suis pécheur et le salaire du péché, c'est la mort ? La réponse, elle est fabuleuse. La réponse, elle est celle-ci. À cause de l'amour et de la grâce de Dieu. Voilà la réponse. Voyez, mes amis, la vraie question ici n'est pas pourquoi Dieu permet-il la propagation du coronavirus avec ses victimes, ou pourquoi Dieu aurait-il permis un tsunami en 2004, si je me trompe pas, ou qui a tué 150 000 personnes, ou pourquoi est-ce qu'il a permis la peste noire qui a tué 200 millions de personnes. C'est pas vraiment la vraie question. Non, la vraie question est celle-ci. Pourquoi Dieu me laisse-t-il en vie? Et pourquoi ne détruit-il pas le monde entier? Parce que nous sommes tous pécheurs. Ah, peut-être vous vous rappelez qu'il l'avait déjà fait, en fait. Oui. Dans Genèse 6, il a déjà une fois détruit le monde entier à cause du péché de l'homme. Ces versets sont étonnants. Écoutez, Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans chapitre 7, verset 11, il dit, en ce jour-là, Dieu dit qu'il va détruire le monde. Il demande à Noé de construire une arche, un bateau. Et ensuite, verset 11 du chapitre 7 de Genèse, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Verset 21, tout ce qui mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail, les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tout être qui était sur la face de la terre fut exterminé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Wow. Dieu l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Pourquoi ne renouvelle-t-il pas son opération? Pourquoi est-ce qu'il tolère tout ce mal encore? Eh bien, vous savez quoi? La destruction de la planète est prévue. Il a déjà promis qu'il va le refaire, mais pas par un déluge. Non, ça va être différent. Dans 2 Pierre 3,10, écoutez, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renfermera, sera consumée. La Bible nous dit qu'un jour, la terre va être brûlée, complètement détruite. Alors, qu'attend-il pour le faire? Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi permet-il aux hommes méchants de survivre? Pourquoi me permet-il de survivre? Non, nous devrions tous être jugés. Bien, je vais vous dire pourquoi. C'est pas moi qui va vous le dire. Je vais vous montrer ce que la Bible dit dans Ézéchiel 33.11, parce que la réponse, elle est vraiment très, très claire. Pourquoi est-ce qu'il nous laisse vivre? Ézéchiel 33.11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous? Maison d'Israël. Il veut que les gens reviennent vers lui. Dans 2 Pierre 3,9, il dit ceci, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, donc de son retour et de la destruction de la terre par le feu. comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voyez-vous, l'amour de Dieu est tel, mes amis, qu'il attend, et il attend, et il attend encore que les hommes se tournent vers lui, qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils lui demandent pardon pour leurs péchés, et qu'ils demandent à Jésus-Christ de venir en eux, les pardonner, les laver, afin qu'ils reçoivent la vie éternelle. Voilà ce qu'il attend. Ça, c'est ce qu'on appelle le salut. Ou, pas par mes œuvres, mais juste par la foi. Car c'est un... Écoutez ce que dit Éphésiens 2, 8 et 9 par rapport à ça. Il dit tout simplement, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et donc, il veut simplement qu'on se donne à Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité pour nous, afin que nous puissions être pardonnés de notre péché et que nous puissions recevoir la vie éternelle. Donc, voyez, le coronavirus devrait nous avoir un effet sur nous. Un rappel que Dieu juge le péché, mais le fait que je ne suis pas atteint encore, je ne sais pas demain, mais aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. Il me donne encore du temps. Et il te donne encore du temps, si tu ne le connais pas encore, de te repentir. Il nous reste que deux questions, d'accord? Numéro 8. Est-ce que Dieu aurait pu empêcher cette pandémie du coronavirus? Est-ce que Dieu aurait pu empêcher cette pandémie du coronavirus? Bien, la réponse, certainement vous la connaissez. Bien sûr, absolument, Dieu est tout puissant. Mais il ne l'a pas fait. C'est intéressant parce que cette pandémie fait partie du plan de Dieu. Écoutez, Lamentations 3, 35 et 36, il est dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Bien que Dieu n'a pas de péché, il n'est pas source du péché, rien n'arrive dans le monde sans sa providence, sans sa permission. C'est ce qu'il dit. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ésaïe 45, 7 dit, je suis l'Éternel. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amos 3, 6. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ce sont des versets incroyablement intéressants. Écoutez, je répète. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Voyons, Dieu contrôle toutes choses, bonnes et mauvaises. Et il ne sera jamais empêché d'accomplir la fin prédéterminée de toute chose. Aurait-il pu arrêter ce virus? Absolument. Il ne l'a pas fait parce qu'il a un plan. Il a un plan. Et ça mène à la dernière question. Beaucoup plus pratique cette fois. Pratiquement et concrètement, que dois-je faire maintenant face au coronavirus? Pratiquement et concrètement, que dois-je faire maintenant face au coronavirus? Plusieurs choses très pratiques. Numéro 1, tu dois appliquer Luc chapitre 13, les versets 1 à 5. Si tu as une Bible, prends-la avec moi. J'aimerais te montrer ce texte incroyable. Tu dois appliquer Luc 13, les versets 1 à 5, si tu ne l'as pas encore fait. Un jour, à l'époque de Jésus, deux événements tragiques se sont produits à Jérusalem. Et alors, ces personnes sont venues interroger Jésus sur pourquoi ces tragédies ont eu lieu. La question est, pourquoi Dieu permet-il des drames envers des personnes dites innocentes? Alors, le premier incident, au verset 1, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et il répondit, croyez-vous que les Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Alors, nous ne savons rien de cet incident dans l'histoire, au verset 1, mais apparemment des Juifs qui vivaient en Galilée, au nord d'Israël, avaient fait un pèlerinage à Jérusalem pour offrir des sacrifices au temple. Et selon la prescription de Dieu et de l'Ancien Testament, alors pour des raisons qu'on ignore, Ponce Pilate procurateur de la Judée, ordonna que tous ces Juifs soient massacrés dans le temple. Et c'est dans ce sens qu'il est dit que les sacrifices ont été mêlés au sang, que leur sang a été mêlé au sacrifice. Alors il se tourne à Jésus, il dit, mais pourquoi est-ce que ces Galiléens ont été sacrifiés? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Voilà la question qu'on pose à Jésus. Alors il leur dit, croyez-vous que les Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Jésus savait que certains voulaient conclure que ceux qui avaient été victimes de ce massacre devaient forcément être pires pécheurs que les autres. Car à l'époque, on associait systématiquement le malheur avec le péché. Mais voilà la réponse de Jésus au verset 3, il dit non. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est ce qu'il dit. Jésus dit, non. Les gens meurent de drames comme ça, pas parce qu'ils sont pires pécheurs que les autres. Non, ce qu'il dit, c'est le vrai drame. Ce n'est pas la mort physique, parce que tout le monde doit mourir un jour. Le drame, c'est qu'il n'était pas spirituellement préparé pour la mort. Il ne s'était pas repenti. Regardez encore le verset 4. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'ils étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareil. Un jour, il y avait l'aqueduc de la piscine de Siloé à Jérusalem qui soudainement elle s'effondre. Chlac! Et malheureusement, 18 personnes, juste à ce moment-là, sont sur la tour et sont écrasées et meurent. Alors la question à Jésus, c'est mais pourquoi est-ce que ces 18 personnes sont mortes, mais pas tous les autres? La réponse de Jésus dit, c'est quoi? Ces personnes ne sont pas pires pécheurs que les autres, nous sommes tous pécheurs, nous méritons tous la mort. Non, de nouveau, ça n'a rien à voir avec la quantité de péché, nous sommes tous pécheurs. Non, la réponse au verset 5 est claire. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Waouh, que dit Jésus ici? Il dit, le drame de la tour de Siloé n'est pas que les personnes sont mortes, puisque tout le monde doit mourir tôt ou tard. Non, le drame, écoutez bien, c'est que ces gens sont morts subitement, sans s'être préparés. Ils devaient, verset 5, se repentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire volte-face, reconnaître leur état de péché, de rébellion contre Dieu, lui avouer leur péché, se détourner et pour demander à Jésus-Christ de les pardonner. C'est ça la repentance. Parce que Jésus est mort et ressuscité et nous donne la capacité ainsi d'être sauvés. Donc, voici la question pour nous. Voici la question réelle d'aujourd'hui, et pour toi qui écoutes. Si, et je ne le souhaite pas, mais si tu devais être contaminé du coronavirus, et si tu devais mourir, est-ce que tu es prêt? C'est ça la question. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Et qu'il t'offre le pardon et la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, maintenant, demande-lui de te pardonner. Il le fera, de te donner la vie éternelle, afin que tu puisses être absolument certain de ton avenir. Donc ça, c'est la première chose concrète et pratique qu'il faut faire si tu ne connais pas le Seigneur. Numéro 2. Chrétien, je te pose la question. Voici la deuxième question. Est-ce que la mort t'est un gain? Paul dit dans Philippiens 1:21, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Moi, je me suis posé cette question cette semaine. Je me suis posé la question, est-ce que j'aime tellement le monde d'aujourd'hui, ma vie d'aujourd'hui, que le ciel n'est pas un gain? Est-ce que je considère Christ? Est-ce que je considère mourir un gain? Alors, seuls les gens qui connaissent Christ et qui savent où ils vont peuvent considérer mourir un gain. Apocalypse 21:4 décrit le ciel comme ceci. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'en suis certain? Est-ce que ma mort, pour moi, est un gain? Ça, c'est une question réelle, mes amis. Est-ce que la mort est un gain pour toi? Trois. Si tu es chrétien, et je le dis parce que plusieurs chrétiens m'ont posé la question, tu dois arrêter de penser que tu vas automatiquement être épargné. Il y a des gens qui disent, oui, mais attends, moi je suis chrétien, donc Dieu m'aime, et Dieu va m'épargner, donc j'ai pas à craindre. Mais c'est absolument faux, c'est absolument faux. Moi je connais un pasteur qui vient de mourir aux États-Unis par le coronavirus. C'est intéressant que dans Étienne a été martyrisé dans le livre des Actes. Or, Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel, ont été épargnés vivants du feu de la fournaise. Non, ça c'est Dieu qui décide, les amis. Le fait que je suis chrétien ne m'épargne pas de la maladie, de la grippe, voire du coronavirus. Il peut, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc, ne pense pas cela. 4. Facile à dire, mais c'est une réalité parce que c'est un commandement. 4. Ne t'inquiète pas. Chrétien, ne t'inquiète pas. C'est ce que Jésus a dit. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Alors dans son cas, c'était de ce que vous allez manger, de votre corps, de ce que vous allez être vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que les vêtements? Ensuite il parle des oiseaux, il dit, mais attends, voir les oiseaux. Moi, tous les matins je me lève, je suis en confinement ici, j'entends les oiseaux. Et je me dis, mais attends, voir les oiseaux, ils sont pas inquiets eux. Nous on est inquiets, mais pas les oiseaux. Dieu prend soin d'eux. Les fleurs aussi, elles sont belles, elles sont tout autour de nous aujourd'hui. Et il nous dit trois fois dans ce texte, ne vous inquiétez pas. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas s'inquiéter? Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Plus je me concentre et je cherche le royaume de Dieu, moins je serai inquiet. Donc nous, chrétiens, nous devons apprendre à être moins inquiets ou pas inquiets du tout, en fait. 5, obéissons aux autorités. Romains 13.1 nous dit de nous soumettre aux autorités. Nous ne sommes pas confinés pour cause de persécution, mais pour cause de contamination sanitaire. Donc, nous nous soumettons aux autorités, nous faisons ce qu'ils nous disent de faire. Et c'est pour ça qu'on fait un culte online aujourd'hui, par live stream. 6. Aidons ceux qui ont besoin d'aide pendant cette crise, si nous le pouvons. Alors, bien sûr, les deux plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et toute sa pensée, et d'aimer notre voisin comme nous-mêmes. Donc, si nous avons l'occasion, sans nous mettre en danger, et notre voisin en danger non plus, parce que je veux pas le contaminer, parce que je dois l'aimer, mon voisin. Mais s'il y a quelque chose que je peux faire, un coup de téléphone, peut-être des achats, quelque chose que je peux faire pour aimer mon prochain, essayons de le faire. Et 7, dernière chose, trouvons des occasions d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à ceux que nous connaissons lorsque l'occasion se présente, parce que c'est exactement ce que Jésus a fait. Avec la tour de Siloé, on a dit, ben alors, c'est quoi la réponse? Il dit, repentez-vous. Et donc, nous, quelque part, c'est la même réponse aujourd'hui. Waouh, j'ai peur. Oui, c'est vrai, nous avons peur, mais Dieu est là. Et Dieu veut nous pardonner et nous accorder une vie bien meilleure. Et donc, c'est une occasion de leur parler de Jésus-Christ.
Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com